Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le Triduum Pascal a commencé, nous sommes au cœur de la vie chrétienne. À Rome, le pape venu du Nouveau Monde a précisé et confirmé le ton de son pontificat par la simplicité inédite de la messe de la scène du Seigneur et par les paroles adressées au clergé. Les prêtres, a-t-il dit, ne doivent pas se comporter comme des gestionnaires, ils doivent redynamiser leur ministère et aller là où se trouve la souffrance. Le pape François a insisté sur la mission évangélisatrice de l'Église catholique au-delà de ses propres cercles. Compte rendu, commentaires et interviews dans ce magazine. Un nouveau pape qui imprime un style nouveau sous le signe de la simplicité et de la proximité avec ceux qui souffrent. En ce jeudi saint, le premier de son pontificat, le nouvel évêque de Rome, François, a rompu avec la tradition romaine pour la messe In Cœna Domini qui inaugure le Triduum Pascal. Il ne s'est pas rendu à Saint-Jean-de-Latran, la somptueuse cathédrale de Rome, dont il ne prendra possession qu'après Pâques, le 7 avril. Il a choisi un centre de détention pour mineurs dans une périphérie romaine, Casal del Marmo, loin des regards et de la frénésie médiatique, loin du fastueux cérémonial qui caractérise les célébrations pontificale. Pas d'image retransmise en direct, 5 concélébrants, dont l'aumônier de la prison, une assemblée composée essentiellement d'une cinquantaine de jeunes détenus âgés de 14 à 21 ans, l'animation confiée à des volontaires du jamais vu. Paolo Ciani est membre de la communauté catholique romaine de Sant'Egidio, expert des questions liées à l'immigration. Il s'occupe plus spécialement du sort des Roms et il applaudit ce choix inédit du premier pape venu des Amériques.
Je crois que c'est un geste très fort, mais c'est un geste évangélique. Donc la signification, je crois, c'est celle de vivre pleinement l'évangile de Matthieu 25, où on lit que Jésus était prisonnier et on l'a visité. Donc je crois que le pape veut faire ce geste avec les plus petits, parce qu'il a choisi une prison de mineurs. Donc c'est quelque chose qui veut signifier sûrement le geste de laver les pieds à nos frères, mais surtout à nos frères les plus faibles, les plus oubliés.
C'est un geste réfléchi, selon vous, qui mûrissait déjà dans l'esprit du pape?
Quand j'écoutais qu'il allait à Casal del Mar, moi, j'ai pensé à un autre cardinal qui fréquentait cette prison, le cardinal Casaroli, qui, un peu en cachette, il allait visiter avec régularité les prisonniers, connu par les jeunes qui vivaient à Casal del Marmo comme Père Agostino. Il ne savait non plus qu'il était un important cardinal. Je crois que le pape François connaissait cette histoire et peut-être il a fait un petit lien quand il a dû choisir où aller.
Vous qui travaillez dans les prisons, est-ce que vous pensez que ce geste peut aider à une réflexion sur le sort des prisonniers aujourd'hui, et en Italie en particulier?
Ben, c'est un discours très important parce que la situation des prisonniers en Italie, il est très pénible. Il y a un nombre élevé de prisonniers, à peu près 70 000, avec des prisons qui peuvent accueillir plus ou moins 45 000 personnes. Donc une situation très dure pour les prisonniers et aussi une situation sociale très dure parce que en prison, plus ou moins, on trouve des gens les plus défavorisés, donc surtout des immigrés, des gens qui n'ont pas une alternative sociale, une alternative économique. Il y a des malades, il y a des malades psychiques, il y a des gens socialement très faibles. Et donc, au lieu d'être des lieux de l'éducation, les prisons risque de devenir un lieu où garer des situations sociales difficiles.
C'est un encouragement pour vous, ce geste du pape?
Sûrement, sûrement c'est un encouragement pour nous, pour tous les volontiers, mais aussi pour tous les prisonniers, c'est-à-dire le pape, l'évêque de Rome, il veut souligner l'être proche à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans une situation de faiblesse, à ceux qui sont prisonniers, donc un geste très important.
Paolo Ciani, un des responsables de la communauté catholique romaine de Sant'Egidio, interrogé par Olivier Benel. Mais si le cadre était inhabituel pour un souverain pontife, le rituel de la messe in cena domini a été respecté. Un rituel marqué notamment par le lavement des pieds, marquant l'attitude de service du Christ envers ses disciples. La grandeur du Christ, Dieu parmi nous, est dans cette humilité. C'est ce que nous explique le père assomptionniste Vincent Leclerc, théologien.
La symbolique de ce rite, je pense que c'est le service. Et puis, c'est l'extraordinaire parcours de Pierre qui comprend ce que Jésus lui demande tout en résistant un petit peu à ce que Jésus lui demande. Parce que montrer ses pieds pour ces gens qui se promenaient en sandales, eh bien, c'est aussi montrer une partie qui peut être blessée par le chemin, par les cailloux du chemin, ou empoussiérée par la route. Donc montrer ses pieds devant le Christ, c'est aussi accepter toute sa fragilité devant lui. Et puis c'est Jésus qui nous dévoile un peu le sens de ce qu'il va faire, c'est-à-dire il demande qu'on le suive à la fois dans ce qu'il fait, c'est-à-dire ce geste de service pour le frère, mais aussi dans ce qu'il va faire lui-même, c'est-à-dire donner sa vie jusqu'à l'ombre de la croix, jusqu'au bout.
De quel ordre est ce geste? Est-ce que c'est un ordre éthique? Est-ce que cela relève de l'ordre du salut? Qu'est-ce que représente ce geste du lavement des pieds pour la foi chrétienne?
C'est pas simplement un geste qui nous dit ce qu'il faut faire, mais c'est un geste qui nous dit ce que nous devons devenir à la suite du Christ. Par ce geste, Jésus n'instruit pas ses disciples sur ce qu'ils doivent faire, mais il leur dévoile le sens de la mission, d'une vie entièrement donnée pour ses amis.
Est-ce qu'on n'est pas là aussi devant une incarnation physique de la foi?
Oui, je me souviens qu'à New York, un prêtre, pour faire le lavement des pieds, avait actualisé le rite en mettant dans le cœur de son église des Noirs américains et en cirant leurs chaussures. C'est-à-dire que, puisque c'était ce que faisaient ces paroissiens dans la vie courante, se mettre aux pieds de leurs clients pour leur cirer les chaussures, eh bien, il reprend ce geste du lavement des pieds pour indiquer que le Christ est le serviteur des serviteurs. Et c'est un geste à la fois d'abaissement du Christ, mais qui veut dire aussi que le Christ et son Église rejoignent chacun dans ses préoccupations les plus quotidiennes pour leur indiquer qui est le Christ pour eux.
Le Christ lave les pieds des apôtres, le prêtre lave les pieds des fidèles, le pape va se soumettre à ce rite. Est-ce que là encore il y a la symbolique du service du corps de l'Église, au-delà du service du corps du fidèle?
Oui, il y a le service de ce corps entier. Jésus se penche sur les pieds de ses fidèles comme il se penche aujourd'hui sur la vie de son Église. C'est le message fort de ce lavement des pieds. Un geste qui est très difficile à entendre pour Pierre, hein, parce que finalement Jésus ne se laisse pas enfermer dans la vision qu'il a, et Jésus en lavant les pieds ne correspond pas à l'idée que Pierre se fait de Jésus. Aujourd'hui, l'Église est dans ce même mouvement. Elle ne correspond pas peut-être à l'idée que le monde s'en fait, mais il y a quelque chose dans cette suite du Christ qui, dans le service de l'autre, contre tout individualisme et tout égoïsme, dit que la vie nous est donnée et elle nous est confiée dans la responsabilité et dans le soin que l'on prend les uns des autres. Je pense que c'est un message fort qui touche énormément les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens. Ce culte de la liturgie doit être aussi le culte de la vie. C'est non seulement notre prière que nous offrons au Seigneur, mais le service que l'on prend et le soin que l'on prend les uns des autres.
Alors fragilité, fraternité, service de l'autre et des plus pauvres, est-ce que toute cette dimension qui est incarnée dans ce rite des lavements des pieds par le pape auprès de prisonniers, est-ce que ce n'est pas un peu l'expression des lignes directrices de son pontificat?
On n'est pas au-delà de nos surprises dans cette Église qui joue la carte de la proximité avec les plus pauvres, faisant le pari que à partir d'eux, on reçoit l'essentiel de l'Évangile. En pleine année de la foi, et puis dans cette perspective de l'Église de France voulue par nos évêques sur Diaconia 2013, je pense qu'on a, par le lavement des pieds de notre Saint-Père, des travaux pratiques, C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous passer des plus fragiles de notre société pour comprendre qui est le Christ pour nous, pour comprendre que Jésus, en annonçant ce royaume de Dieu, a voulu croire dans le destin des plus vulnérables. Il a voulu les aimer d'un amour plus fort que tout ce qui les empêche d'avancer et il a espéré en eux et à travers eux.
Le père Vincent Leclerc, interrogé par Olivier Tosserie. À la fin de la messe de la Seine, le pape argentin a rencontré les jeunes détenus et le personnel pénitentiaire dans le gymnase de la prison. Il leur a distribué des œufs en chocolat et, selon la tradition italienne, des brioches en forme de colombe. C'est dans la basilique Saint-Pierre que le pape François, entouré des cardinaux et des évêques, avait célébré la messe chrismale jeudi matin. Les quelques 1600 prêtres du diocèse de Rome et des collèges romains ont renouvelé leurs promesses. C'est également au cours de cette messe solennelle que l'on bénit les huiles saintes et le Saint-Crème. La messe chrismale, on le sait, est généralement l'occasion pour le pape de donner des orientations au clergé. Et François n'a pas dérogé à la règle. Salué par les applaudissements, il a invité les prêtres à ne pas être tristes ni fermés sur eux-mêmes comme des collectionneurs d'antiquités et à ne pas être déconnectés du reste du monde. Le compte-rendu de Bernard de Cotigny.
Les gens nous remercient lorsqu'ils sentent que nous avons prié avec les réalités de leur vie de tous les jours, leurs peines, leurs joies, leurs angoisses et leurs espérances, quand nous sommes dans cette relation avec Dieu et avec son peuple, et que la grâce passe à travers nous, alors nous sommes prêtres et des médiateurs entre Dieu et les hommes. Pour le pape François, il faut que les prêtres redonnent vie à la grâce et soient à l'écoute de toutes les attentes et demandes, même inopportunes, parfois purement matérielles ou banales, mais souvent seulement en apparence. Dans cette homélie, véritable feuille de route pour le clergé du monde, le pape François a fustigé les prêtres qui ne seraient que des gestionnaires, les appelant à redynamiser leur messe pour combattre une crise d'identité sacerdotale qui se greffe sur une crise de civilisation. Une fois encore, il les a exhortés à aller aux périphéries du monde, porter l'évangile à ceux qui n'ont rien de rien. Il s'en est pris aux prêtres tristes qui peu à peu se sont convertis en collectionneurs d'antiquités ou de nouveautés. Ils ne payent pas d'eux-mêmes ni de leur cœur et ne reçoivent pas non plus un merci affectueux qui vient du cœur. Et d'enfoncer le clou, ce ne sont pas précisément dans les auto-expériences ou les introspections répétées que nous rencontrons le Seigneur. Les cours pour s'aider soi-même dans la vie peuvent être utiles, mais vivre, passant d'un bord à l'autre, de méthode en méthode, pousse à minimiser le pouvoir de la grâce qui s'actualise si avec foi nous sortons pour nous donner nous-mêmes et pour donner l'évangile aux autres.
L'an dernier, lors de la messe chrismale, Benoît XVI était sorti de sa réserve au sujet des mouvements de contestation qui se sont développés au sein du clergé européen, notamment en Autriche, sur des dossiers tels que le sacerdoce des femmes, le mariage des prêtres ou la communion pour les divorcés remariés. La désobéissance est-elle un chemin pour renouveler l'Église, avait lancé Benoît XVI, soulignant combien Jésus tenait à la vraie obéissance contre l'arbitraire de l'homme. Ce vendredi, le pape François présidera la célébration de la Passion du Seigneur à partir de 17h en la basilique Saint-Pierre. Cette célébration est marquée par la liturgie de la parole, l'adoration de la croix et la communion. À 21h, il se rendra au Colisée pour le traditionnel chemin de croix, autant d'événements que vous pourrez suivre en direct avec commentaires en français sur notre site internet. Pendant le chemin de croix, une handicapée, un brancardier et deux volontaires de l'association Unitalsi porteront la croix à la 4e et 5e station. Conformément à la volonté de Benoît XVI, les méditations ont été confiées cette année à une commission du patriarcat maronite, composée notamment de plusieurs jeunes et d'un prêtre libanais sous la conduite du patriarche maronite. Le cardinal Béchara y revient sur l'honneur qu'a fait Benoît XVI à ces jeunes libanais en leur confiant, quelques mois après son voyage au Liban, le dernier déplacement apostolique de son pontificat, le soin de rédiger les méditations de ce chemin de croix au Colisée. On écoute le cardinal Béchara.
Pour moi, ce geste voulu par le pape Benoît XVI, le bien-aimé, c'est un geste prophétique. Et eux, ils ont exprimé cela. Ils ont fait une veillée de prière intitulée « Merci Benoît ». Ils ont de nouveau repris la visite du pape, ce qu'il a dit, ce qu'ils ont dit. Ils ont fait voir la rencontre à Pierre et ils ont envoyé au pape aussi le DVD de cette rencontre. Le pape a pu gagner vraiment les cœurs des Libanais et surtout des jeunes. Eux, ils ont profité de cet amour du pape pour donner de leur cœur ces méditations qui ont plu aux responsables au Vatican. J'ai demandé s'ils étaient bien, ils m'ont dit qu'ils sont très bien. Ça fait plaisir. Cela veut dire que on a besoin de l'expérience pour pouvoir parler la vérité et la réalité objective des choses.
Quel est le message justement de ces méditations de la Via Crucis?
Nos jeunes Libanais n'ont pas connu la paix, ils ont connu la guerre. Comme Libanais, nous sommes en guerre depuis 1975, avant leur naissance. Ils sont nés dans la guerre, ils ont entendu les voix de la guerre, ils ont souffert de la guerre, ils ont vu les grands malheurs de la guerre, et maintenant ils voient que la guerre continue. Ils voient devant eux ce qui est arrivé en Irak. Ils voient la Syrie, ils voient l'Égypte. Alors une grande expérience de souffrance, une grande expérience d'espérance. Ils ont pu, ces jeunes, exprimer tout cela au nom de l'humanité, à partir de leur propre expérience. Ils ont pu méditer la valeur de la souffrance du Christ en soi, comme valeur rédemptrice, valeur salvatrice. Ils ont pu exprimer en leur nom et au nom de chacun qui souffre la souffrance et les anxiétés, les attentes, et ils ont pu ouvrir une fenêtre d'espérance qui provient de la résurrection du Christ. Et avec une prière terminale, ils ont pu inclure tout cela. J'ai admiré que, par leur expérience, ils ont pu exprimer ce qu'ils ont voulu dire.
Donc c'est aussi sur le rôle et l'importance de la souffrance.
C'est vrai, nous vivons une période très critique, très difficile, mais ceci forme la personne humaine. Sans la douleur, sans la souffrance, sans les difficultés, on ne peut pas mûrir dans notre féminité et masculinité. On ne peut pas être un vrai être humain qu'à partir des difficultés de la vie. C'est comme les examens. On ne peut progresser et monter d'une classe à une autre sans le test, n'est-ce pas? On l'appelle test d'examen. Alors, les souffrances, les difficultés, les persécutions, tout ça, c'est le test qui nous aide à croître et à mûrir dans notre identité personnelle, homme ou femme. Moi, je suis content, je le dis toujours aux jeunes, il ne faut pas seulement souffrir, il faut savoir comment souffrir et en même temps comment mûrir dans la souffrance.
Le cardinal Béchara Boutros-Rahi, 77e patriarche maronite d'Antioche et de tout l'Orient, interrogé par Marie Duhamel. À Jérusalem, Mgr Fouattoua l'a réaffirmé à l'occasion du Jeudi Saint que la paix en Terre Sainte était la clé de la paix au Proche-Orient. Le patriarche latin a dénoncé les violences en Syrie qui, a-t-il dit, s'enfoncent toujours plus dans une violence qui n'a plus de nom que la folie des hommes. Pour Mgr Toile, le Moyen-Orient souffre cruellement et les politiques échoueront toujours à installer la démocratie et la justice tant que la Terre Sainte subira le conflit qui la déchire. Le patriarche a invité les fidèles à prier pour que le Seigneur lave le Moyen-Orient de toutes les poussières de la division, des infidélités, de l'injustice et de la soif du pouvoir. Empêcher les ingérences étrangères en matière de politique intérieure et promouvoir la reconstruction de l'Irak et la participation active de toutes les composantes du monde politique, ces recommandations ont été adressées au président du Parlement irakien par le patriarche Khaldé Louis Ier Sacco ce jeudi matin à Bagdad au cours d'une rencontre officielle à laquelle participaient les responsables de toutes les églises chrétiennes d'Irak. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une série d'initiatives lancées par les chefs de la minorité chrétienne d'Irak pour relancer le processus de paix et d'autonomie 10 ans après l'offensive américaine. Mercredi, les responsables chrétiens qui ont élaboré un plan de réconciliation nationale en plusieurs points avaient déjà rencontré le Premier ministre Nouri al-Maliki, le ministre de l'Environnement et d'autres membres du gouvernement. Le patriarche chaldéen a rappelé au Premier ministre qu'il avait la responsabilité de favoriser la réconciliation pour le bien de l'Irak et des Irakiens. Mercredi soir, au cours d'une audience au Vatican, le pape a autorisé la Congrégation pour les causes des saints à promulguer une série de décrets. Plusieurs chrétiens morts en raison de leur foi figurent parmi les futurs bienheureux. De nombreux décrets concernent en effet des martyrs. Des martyrs espagnols, prêtres, religieux et laïcs, tués pendant la guerre civile dans les années 30. Des martyrs tués dans les années 50, sous les régimes communistes, en Roumanie, en Hongrie. Des martyrs tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Un dominicain italien mort en 1945 à Dachau, le camp de concentration nazi, et un séminariste tué la même année en Italie. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur Facebook Radio Vatican en français et sur Twitter. Merci de nous avoir suivis.